Encore que la bande passante du réseau Clasen est faible.
Ouais, bah ça, c'est l'installation de la maison, probablement. Mais enfin, bon, déjà, si vous m'entendez sans me voir, très bien. Mais faites, bon, on verra bien. Oui, je vous disais, première chose, le haut degré d'autorité de ce texte. Deuxième chose, nous pouvons légitimement ne pas être en accord avec telle ou telle chose. On peut même avoir de très bonnes raisons, réfléchies, étayées, pour avoir un autre avis que les consignes que le pape dit quand il donne des consignes concrètes. Pour autant, et au minimum, devons-nous alors dégager l'essence de ce que le pape veut enseigner. Et vous voyez, là, on est tout à fait capables, les uns comme les autres, de faire la différence entre l'idée majeure qu'il veut enseigner, et ça, il le fait dans une encyclique, donc il est une espèce d'autorité sur la tradition de l'Église. Donc, il faut distinguer l'idée générale et, disons, les applications concrètes dans l'existence. Voilà, ça, il faut savoir distinguer. Autrement dit, garder l'essentiel et tâcher de le traduire dans nos vies, tâchons de le traduire dans nos vies, éventuellement d'une autre manière que ce que lui propose, pourvu que nous gardions l'ensemble et l'essentiel de son enseignement. Troisième chose, c'est toujours une vaste introduction que je suis en train de vous faire, le pape se cite beaucoup dans cette encyclique. D'ailleurs, on le lui reproche. C'est assez curieux. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, c'est un truc, encore une fois, que ses adversaires peuvent difficilement comprendre et qu'ils resservent comme prétexte. Parce qu'à vrai dire, il ne se cite pas. Il cite, et c'est bien plus important, il cite les expériences pastorales qu'il a faites et les leçons qu'il en a tirées. C'est-à-dire, alors voilà qui est très important et qui même philosophiquement s'inscrit dans ce qu'on appelle la phénoménologie. Je vous explique ça dans un instant. Le pape cherche dans l'ordinaire de son ministère ou même dans son magistère, alors quelle est la différence entre les deux? Le magistère du pape, c'est quand il enseigne les conférences dans tel ou tel pays, les interventions au Bundestag, les réceptions des ambassadeurs en visite, etc. Là, il exerce son magistère. Or, il pense que dans l'ordinaire de son ministère, quand il rencontre des jeunes, quand il fait un voyage, quand il prêche en semaine, quand il visite des hôpitaux, ou quand il exerce son magistère ordinaire, ce qu'il vit là, dans le concret, est élevé au rang d'un enseignement majeur, une encyclique. Et donc, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, autrement dit, vous voyez, je reprends d'une autre manière, l'ordinaire de nos existences est notre maître, c'est-à-dire est notre magistère. Nous apprenons par ce que nous vivons, nous apprenons par ce que nous faisons. C'est dans les engagements concrets, quotidiens, que nous apprenons, pas dans les magistères romains, pas dans les théories. En quelque sorte, la meilleure façon, la meilleure leçon de notre vie ne nous viennent pas des grands principes, des belles idées, mais de ce qui est vécu authentiquement. Donc voilà, ça c'est hyper important et c'est constant, probablement vous l'avez remarqué, hein, dans l'enseignement de ce pape. Très souvent dans les homélies du dimanche, même en semaine, il dit « j'ai rencontré cette semaine un groupe de Brésiliens qui m'a dit que j'ai rencontré la conférence épiscopale du Rwanda etc. Bon, voilà. Et il l'élève ici dans cette encyclique, en les citant en effet, il les cite dans cette encyclique à titre d'enseignant, c'est-à-dire il apprend de cette pratique. Alors ça, c'est très important. Et donc, la vie authentique est notre leçon et ce qui nous apprend le mieux. Alors, c'est quoi la vie authentique? Ça aussi, c'est une question philosophique très intéressante. Alors là, je développe un peu, hein, je commente la pensée de François parce qu'il n'en parle pas de ça. Mais la vie authentique, un terme qu'il utilise assez souvent, c'est celle qui est vécue, bien sûr, mais vous pouvez très bien vivre plein de choses, pas du tout authentiquement. Parce que pour que ce soit vraiment vécu, il faut que ce soit relu, ressaisi, regardé. Si vous ne la regardez pas, elle est perdue. Vous avez fait une expérience, mais ce n'est pas vraiment une expérience. Ça a traversé votre existence, et voilà. Donc, il faut que ce soit vécu, relu, ressaisi, regardé, si vous voulez. Puis, il faut que ça monte à l'expression. Et enfin, autant que possible, il faut que ça monte vers la gratitude, vers la louange. C'est-à-dire vers l'impression que ce que nous avons vécu nous a été donné et nous a grandi. Voilà ce que c'est que la vie authentique. Et donc, pour le pape François, c'est très clair, la vie authentique est un maître. Donc, voilà la raison pour laquelle, et je réponds un peu aux critiques qui disent « ce pape se cite, pour qui il se prend ?» Voilà pour qui il se prend. Quoi. Voilà, il essaye de faire vivre authentiquement tous ceux à qui il parle. Un mot encore, toujours dans mon introduction, un mot encore sur le style. Je me suis amusé à essayer de caractériser les styles de ses deux prédécesseurs pour comparer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Paul II, moi je l'ai bien connu, bien sûr, et c'était un discours fleuve qui bouclait sur lui-même. Et en fait, on n'en finissait plus de circonvolution, c'était un texte très compliqué en fait. Le style Benoît XVI, alors c'est R doctor ou R professor si vous voulez, c'est très construit, c'est très dessiné, c'est très métrique, c'est très pesé. Il y a quelque chose évidemment de professoral, hein. Ça c'est très clair. Alors que le style François, et ça il faut savoir en tenir compte, on n'a ni Benoît XVI, ni Jean-Paul II, on a François. Le style François, on collecte, on met un tas ici, on met un tas là-bas, on n'a pas encore ouvert tous les cartons, peu importe, ils sont tous là. Donc voilà, ça c'est le style François. C'était mon deuxième avant-propos. Le troisième, voici le plan de l'encyclique. Il y a 8 parties, et voici comment je les organise. Ça paraît un petit schéma qui va réapparaître petit à petit. Vous voyez, je vais vous retrouver les 8 parties. Le premier en étoile un peu éclatée. Le second, c'est une petite image. 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, les 3 derniers. Je n'en parlerai pas, parce qu'on ne peut pas parler de tout. C'est très simple, hein, ce sont donc, vous le voyez bien, le dialogue interreligieux, la culture de la paix, et puis la rencontre de l'autre, la culture du dialogue. Donc ça, c'est, disons, les 3 derniers chapitres. Ce sont des choses bien connues et déjà beaucoup répétées dans les magistères précédents. Hein. La rencontre interreligieuse, c'est Jean-Paul II, Pax Christi avec Jean XXIII, le dialogue de culture, évidemment, c'est depuis longtemps. Donc, je dirais, il n'en ajoute pas beaucoup. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est les parties que je cerne en rouge. Donc, je vais d'abord attirer votre attention sur le chapitre 2, et puis un peu sur le 1, puis sur le chapitre 4, et un peu sur le 3, parce que ça va ensemble. Si vous remarquez, j'ai mis également des accolades au-dessus, où je vous montre qu'il y a des dimensions politiques dans 3, 4, 5, dans 1, 2, 3, des dimensions anthropologiques, puis politiques dans 3, 4, 5. C'est donc de la doctrine sociale. Alors, un mot quand même sur l'introduction, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais un mot quand même. On y trouve, j'en dis un mot parce qu'on y trouve, des clés très intéressantes, pour comprendre ce fratelli qui veut dire frère, frère au pluriel. Il se décline l'ensemble de la, disons, de l'esprit de cette encyclique se décline sous 3 objectifs. Le premier, c'est aller à la rencontre. Voilà, c'est une espèce de mot d'ordre qui court, qui émerge constamment dans le texte. Aller à la rencontre, oser la rencontre, même si ce sont des inconnus, même si ce sont des adversaires, peut-être même des ennemis, il faut tenter la rencontre. Et avec une espèce d'obligation qui va rappeler plusieurs fois, c'est que la fraternité doit se décloisonner, parce qu'il n'est pas fou, il sait très bien, il connaît très bien l'Occident et les autres pays du monde, hein, bien sûr. Il sait que nous sommes tous très fiers d'être frères de nos potes, de notre petit cercle. Ah, qu'est-ce qu'on s'entend bien entre nous ? Mais non. Il faut ouvrir, il faut en quelque sorte faire, non pas exploser ces fraternités, mais les rendre fécondes en allant donc à la rencontre d'autres. La deuxième chose qui court partout, d'ailleurs ça nous posera une ou deux questions au fur et à mesure de mon exposé, il y a le vrai projet de réhabiliter le politique. Chapitre 3, 4, 5. Il va même parler de charité politique ou d'amitié sociale. Ces deux axes, aller à la rencontre et réhabiliter le politique, vont traverser, sourdre partout dans ce texte. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit sur le politique, hein, notamment. Je signale tout de suite un troisième thème. Là aussi, ça traverse toute l'encyclique et ça pose, à mon avis, les questions les plus intéressantes du point de vue, disons, philosophico-anthropologique. C'est le rapport qu'il y a entre le local et le global. C'est une question très intéressante qui se décline sur le plan économique. On le voit, vous savez, avec tous les essais de marchés locaux, d'échanges commerciaux. On le voit aujourd'hui avec la pénurie de blé. On l'a vu pendant la crise du Covid, on n'était plus capable en France de fabriquer, du Doliprane ou je ne sais plus quoi. Enfin bon. Donc, il y a un rapport du local et du global qui est extraordinairement important comme question, et même comme question politique, économique, philosophique, psychologique. Et jusqu'où peut-on s'ouvrir ? Nous sommes tous enracinés dans des localités. Mais il faut bien s'ouvrir, il n'arrête pas de prêcher pour ça. Mais jusqu'où ? Et pour pouvoir s'ouvrir à autrui, il faut, ce qui est bel et bien l'objectif de la fraternité, et surtout quand le titre s'appelle Fratelli Tutti, et donc, il faut bien être enraciné. Et en fait, cette dialectique locale-globale, ou si vous voulez, cette contradiction locale-globale, va courir tout le long. Le cardinal Ratzinger, quand il était encore cardinal, jouait beaucoup, lui aussi, sur les oppositions, à première vue incompatibles, et il disait toujours « cependant » ou « ce faisant » avec son accent. Ce que Macron dit, vous voyez, quand il dit, quelle est sa formule, au fait, vous la connaissez tous, « en même temps ». Voilà, et c'est la même chose. Hein. Le « en même temps », c'est qu'il faut savoir tenir l'un et l'autre pour que l'un soit juste, soit ajusté par l'autre. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinairement important sur lequel, vous verrez, on va revenir plusieurs fois. L'ensemble de cette introduction est mis sous l'autorité d'une sorte de parabole historique qui provient de la vie de saint François d'Assise et qui va servir au pape d'icône parabolique de ce qu'il veut essayer de nous enseigner, c'est-à-dire aller à la rencontre, réhabiliter le politique, le global, le local. C'est l'histoire, vous savez, la fameuse rencontre, un événement historique qui a vraiment eu lieu, mais en effet, qui a fait, du point de vue narratif, vous voyez, qui a presque tourné au rêve. C'est la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan Malik Al-Kamil au Caire en 1219. Alors en effet, oser aller à la rencontre, ça bouscule les haines, a priori. Et c'est bien ça qu'il va falloir viser. Le précepte que François va tirer de cette parabole, je le lis au paragraphe 3, c'est, à propos de saint François, la fidélité à son Seigneur était proportionnel à son amour pour ses frères et ses sœurs. Ça nous paraît une banalité quand on entend ça. Mais en fait, c'est très important parce que ça renverse la logique habituelle qui est la nôtre. Habituellement, nous disons, nous sommes chrétiens, par conséquent, il faut aller vers nos frères. Lui dit non, 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 c'est pas par conséquent, c'est proportionné. C'est-à-dire, l'un vient équiper, étayer, animer, vérifier l'autre. Et lui-même, vous savez, a été, c'est pour ça que je vous mets cette photo, lui-même a essayé de vivre d'une manière existentielle ce que saint François a tenté d'une manière idéale. Il a été rencontré, alors ce n'est pas insultant, hein, c'est l'imam Ahmad al-Tayed du Caire. Qu'est-ce qui a changé, demandent les sceptiques. Et les sceptiques, voilà, les sceptiques boudeurs, vous voyez, qui trouvent tout ça ridicule, des rêveries qui sont, paraît-il, clairvoyants sur le plan politique, nous diront, oh, bon, qu'est-ce que tout ça a changé, rien ou pas grand-chose, ils se sont rencontrés, et alors? Eh bien, le pape répond, il vaut toujours mieux se rencontrer que se mépriser. Il vaut toujours mieux tenter la rencontre que d'ignorer. C'est tout simple, hein. C'est un peu benêt, mais c'est ça être chrétien. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la fraternité. Non pas donc comme une conséquence de la foi. Je suis ami avec tout le monde parce que ben, je crois en Dieu. Non, 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 ce n'est pas une conséquence. C'est le milieu de vie de la foi. C'est sa vérification. Sans fraternité, pas de foi qui tienne. Sans la fraternité, proclamer la foi ne serait que dire une idéologie comme une autre. Nous ne sommes pas frères parce que nous y sommes obligés, parce que nous croyons au Christ et que le Christ nous en a donné l'ordre, aimez-vous les uns les autres. Mais la foi au Christ se nourrit de la caritas. Et la caritas est animée par la foi. Mais je répète la même chose, mais je répète encore une fois, la morale, le comportement juste, bon et droit, est en quelque sorte un département de la foi. Et la foi est en quelque sorte animée par nos pratiques concrètes de la caritas. Et si nos pratiques concrètes de la caritas n'habitent pas notre existence, notre foi est morte. Elle n'est plus animée. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui sont formidables, qui sont dites dans cette introduction et qui mériteraient d'ailleurs que le clergé, le dimanche, prêche abondamment là-dessus. Bon, voilà pour l'introduction. Très belle introduction, très ajustée, mais ce n'est que l'introduction. Avançons au chapitre premier. Par commodité et par souci pédagogique, j'ai divisé en 8. Alors, ce n'est pas le plan proposé par le texte, hein, c'est moi qui fais cette division. J'en dis un mot, mais alors très rapidement, de chacune de ces parties, pour que vous en ayez une idée. Comme dans Laudato aussi, et pas tout à fait comme dans Amoris Laetitia, le chapitre 1 est une sorte de diagnostic, et il faut bien le dire, franchement pas gai. Il fait la même chose dans Laudato aussi, qu'on verra mardi prochain, alors que vous vous souvenez que dans Amoris Laetitia, il avait renoncé à ça. Parce qu'il dit, c'est pas une bonne manière de commencer l'enseignement que de décrire ce qui est mal. Nous devons toujours décrire ce qui est bien et chercher ce qui est bien. Bon, mais voilà, là, il en est dans cette encyclique, qui est une encyclique sociale, il en est à faire, donc, premier chapitre, une sorte de diagnostic que j'ai caractérisé avec ces 8 appuis. Alors, on va aller voir rapidement. Je me suis beaucoup amusé avec mes petits smileys. Un espoir déçu. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'espoir qui a suivi la période d'après-guerre. Alors, voilà un des thèmes qui va courir sur toute l'encyclique qui va réémerger maintes et maintes fois, le pape est fasciné par ce qu'il s'est passé dans l'après-guerre à propos de la fondation des institutions internationales de paix, de lutte contre la faim, etc. Et il, pour lui, vraiment, il a beaucoup d'espérance dans ces institutions, on va dire, méta-nationales. Mais, en effet, le fruit de l'olivier a déçu, comme on dit dans les psaumes. La deuxième chose qu'il dit, il redoute les cloisonnements entre les groupes qui ne cessent de se durcir. Il constate ça, vous voyez, il dit les groupuscules, le communautarisme ne cessent de se durcir, premier point. D'autre part, la quête des résultats immédiats aujourd'hui est érigée en nouvelle rationalité, notamment les quêtes de résultats immédiats quant à l'opinion publique. Donc, on peut mentir, traîner dans la boue, faire le mal, objectivement, pourvu que ça serve efficacement, tout va bien. Quatrième point qu'il dit dans cette culture du mépris, le nouveau dogme, c'est de refuser les héritages, c'est-à-dire les dettes, c'est-à-dire la génération, les générations qui ont passé. Chacun, dorénavant, peut inventer ses propres valeurs. Et c'est très bien, c'est même une espèce de dogme. Fais ce que tu veux, pourvu que tu le veuilles. Et enfin, quatrième point, le tout, cet ensemble que je viens de vous dire, autant tout à l'heure je vous disais que la charité est en quelque sorte le milieu de vie, le biotope de la foi, eh bien ce qui est le biotope de ces trois points que je viens de vous dire, c'est la culture du mépris déguisé en humour. Ça, c'est très étonnant. C'est très étonnant et c'est très bien vu. Et ce n'est pas le propre de la France. C'est-à-dire, il a un regard un peu mondial, hein, le pape François, ça ne vous étonne pas, tous les papes, c'est pareil. Et il constate dans le monde entier donc, ces espèces de cloisonnements, ces espèces d'idéologies à très courte vue, ces espèces de valeurs provisoires qui deviennent des dogmes et d'humour, comme on dit dans nos... Et moi, je suis affligé d'entendre le matin, j'écoute plus France Inter parce que vraiment, c'est un degré d'irritation qui m'énervait pour toute la journée. Donc, j'écoute une radio plus neutre, plus banale qui est Europe 1. Et même eux, s'ils sont mis... Vous voyez, ils font des informations. Puis au milieu de l'information, vous avez une espèce d'amuseur, un abruti complet, vous voyez, qui essaye de faire rire, et personne ne rit, vous êtes sidéré, vous êtes consterné en train de prendre votre petit déjeuner, d'un tel niveau de médiocrité, de mépris. Vous voyez, ça n'est que du mépris, on abaisse les gens, et on entend les autres journalistes éclater de rire dans le studio. C'est à lapider de tels trucs, et c'est vraiment pénible. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la culture du mépris. Et il constate ça. Troisièmement, les exclus. Le critère, dit-il, de rentabilité a créé de véritables poubelles humaines. Voilà. Des poubelles humaines. Et ici, il emprunte à Paul VI, déjà, qui avait parlé de ça, hein, déjà. Paul VI, il parlait de ça à propos, vous savez, du second cercle autour de nos grandes cités. Et le premier cercle, en gros, c'est ceux qui n'arrivent pas à vivre en centre-ville, la petite bourgeoisie. Puis vous avez un deuxième cercle, c'est les poubelles. Mais ce sont des êtres humains. Ah, alors nous, c'est un peu moins visible peut-être dans nos banlieues, quoique. Mais quand vous allez à Buenos Aires, à Istanbul, à Shanghai, enfin voilà. Et donc, Paul VI le dénonçait déjà, Benoît XVI est revenu là-dessus. Et alors, il en fait la liste des exclus. Et alors, c'est consternant parce qu'il commence. Pour lui, la catégorie la plus exclue au monde, ce sont les femmes. Alors, vous savez, le pape a une vision mondiale, je viens de le rappeler. Nous, en Occident, bon, on ne s'en rend plus vraiment compte. Hein. Mais nous nous plaignons des inégalités, bon, très bien. Mais lui va plus loin, il dénonce bien sûr le machisme, mais il va jusqu'à dénoncer l'esclavage des femmes. Non seulement elles sont exclues, mais elles sont réduites à l'esclavage. Alors c'est un truc qu'il porte beaucoup dans ses visites pastorales quand il va dans le monde entier. Cause d'exclusion encore, ce sont les communautarismes. On sait, je vous en ai déjà vaguement parlé, il en reparle lui-même. Les communautarismes érigent une culture des murs à cause desquels toute altérité est jugée dangereuse. Et pour s'en protéger, la première arme, c'est le mépris. Le mépris. Les communautaristes se nourrissent de mépris et de haine. Et c'est également dans ce paragraphe, alors c'est assez vertigineux, où il dit que nous risquons, à cause de ces communautarismes, à cause de cette culture du mépris, nous risquons une troisième guerre mondiale par morceaux, dit-il. Alors ça, c'est assez bizarre, impressionnant, vertigineux. Quatrième élément dans son diagnostic un petit peu pessimiste, négatif en tout cas, hein, et ben c'est ce qu'il appelle la globalisation. Mais c'est assez curieux, ce premier point. Celle-ci, bien sûr, favorise un certain nombre d'avancées technologiques, hein, dont tout le monde profite. La circulation des produits, l'intelligence qui circule, etc. Mais cette mondialisation porte trop de fruits amers. Et on se serait attendu, alors moi je m'y attendais un peu, à voir mentionner ici les flux financiers incontrôlés ou bien les commerces illicites. Mais non, ce qui est d'abord mis en avant par le pape, c'est le phénomène mondial de l'individualisme, sous-produit de la sous-culture européenne qui s'est mondialisée. Et ça, évidemment, c'est catastrophique. Parce que les cultures d'Asie ne sont pas individualistes, les cultures d'Amérique latine ne sont pas individualistes, les cultures africaines non plus, vous savez, les grandes tribus africaines, une famille, c'est une tribu en Afrique, eh bien, elles le deviennent. C'est-à-dire, il y a une espèce de globalisation de la culture la plus médiocre. Cinquième point, la crise Covid. Cette crise a rendu manifeste de vraies possibilités, hein, de services mutuels, par exemple, chez beaucoup, de belles générosités. Hein. Tant mieux, ça, tout le monde l'a observé, surtout pendant le premier confinement. Mais cette crise révèle bien la vulnérabilité de tous et une espèce de vulnérabilité en chaîne. Et c'est là où la globalisation également s'est rendue manifeste à tous. Ben, on l'a bien vu. La crise du Covid a traversé le monde entier. Voilà une espèce de globalisation. Et donc, elle nous invite à revoir les équilibres entre les flux et les localisations. Encore une fois, c'est un thème qui va courir de bout en bout dans l'encyclique. Et elle révèle aussi, bon ça j'espère que tout le monde s'en est bien rendu compte, bah, que nous ne sommes pas les maîtres du monde. Sixième point, ah oui, j'avais un joli dessin pour le Covid. Sixième point, la question des migrations. Il en parle d'emblée, mais il y aura un chapitre, le chapitre 4, qui lui sera consacré. Un mot quand même ici. Premièrement d'abord, il met en garde les candidats à l'immigration. Et donc, il s'adresse au monde entier. Il ne s'adresse pas uniquement aux gouvernants américains ou européens, il s'adresse au monde entier et il commence à mettre en garde ceux qui seraient tentés par l'immigration. Pourquoi ? Eh bien parce que, dit-il, ils vont vers la déception, vers la désillusion et vers le déracinement. C'est ça qui les attend. Et donc, il vaut toujours mieux, dit-il, rester chez soi. Sauf qu'il y a des grands fléaux que sont les conflits, les guerres et les famines. Et cependant, même pour ces grands fléaux, il il est lucide, il les connaît parce qu'il vient d'Amérique du Sud. Et il fait la promotion du changement dans les pays d'origine avant que de fuir. Paragraphe 39. On verra. C'est-à-dire, je dis ça d'emblée, parce que c'est dans le chapitre 1, et puis parce que, contrairement à ce que disent les détracteurs de François, il ne fait pas la promotion de la migration. Tout le contraire. Pour lui, la migration est un malheur. Conséquence d'autres malheurs. Ce qu'il dit juste au chapitre 1, c'est que probablement ceux qui sont tentés par la migration sont dans des pays qui contribuent eux-mêmes à leur propre ruine. La guerre, la famine, est souvent le fait de la corruption ou de la mauvaise gouvernance. Bon, voilà. Le septième point, c'est la question du numérique. Bon, ça, je ne m'y attarde pas. Pourquoi évoque-t-il le numérique ? Là, il n'est vraiment pas le premier à le faire. Mais il y insiste dans Fratelli Tutti parce qu'ils disent « on vous ment, on vous propose une fausse fraternité ». En fait, c'est la culture du clan, et du clan le plus étroit possible parce qu'il n'est pas concret, il n'est pas affectif, il n'est pas corporel. Vous n'avez même plus l'aspérité d'un vrai compagnon. Et donc, c'est probablement la pire des mises en bulle, des mises en clan que nous propose le numérique. Outre le fait que tout devient spectacle, qu'il y a des circulations sans retenue de violence, de propos agressifs, d'images extraordinairement blessantes, pornographiques, violentes, suggestives, etc. Et les religions, dit-il au passage, ne font pas exception. Elles profitent, elles aussi, de cet outil et souvent organisent des clans. Ah, ça, c'est très intéressant. Je vous parle pas, évidemment, de l'aspect addictif dont il parle. Hein. Ça, beaucoup l'ont dit. Par contre, je vous recommande ce petit bouquin d'Antoine Vidalin, qui est un prêtre du diocèse de Paris, qui enseigne aux Bernardins et qui vient de sortir, il y a un an, en 2021, un bouquin qui s'appelle « Personne », point d'interrogation. C'est-à-dire « il n'y a personne ». Et dans le numérique, il n'y a personne, il n'y a pas des personnes. Il y a juste des clans et des circulations d'informations qui clanisent les gens. Ça aussi, je pense qu'on s'en est rendu compte pendant la crise Covid, et notamment tous les circuits de fake news et compagnie. Et puis enfin, le huitième point, vous voyez que c'est vraiment un diagnostic pas très marrant, mais je trouve assez intéressant quand même, hein, parce qu'il met le doigt sur des choses qui méritent qu'on les observe quand même de face. Le huitième point, c'est la sous-culture. S'il y a une forme de mondialisation qui a vraiment été efficace, c'est la sous-culture des abrutis. C'est-à-dire, on vous propose partout dans le monde le même type de scénario bétassonne et surtout avec le même type de propositions qui sont des attrape-nigauds. C'est-à-dire, toutes les séries, par exemple, vous montrent un beau jeune homme étudiant aux États-Unis qui a 21 ans et qui va à l'université en bagnole, bien sûr, et qui habite dans une belle résidence à Beverly Hills où il y a une piscine. Et on vous raconte ses petites amourettes, qui est souvent très idiote, très crétine, et il dépense son argent. Et ça, c'est mondialisé. Et ne parlons pas du Hollywood indien, qui est peut-être pire que nos séries. Et bref, et c'est ça où il pointe, où il met le doigt, c'est très intéressant hein, dans cette dénonciation de la sous-culture. C'est-à-dire, il dit le grand danger, c'est que les plus pauvres se mettent à mésestimer leur propre culture et pensent que ce sont des arriérés. Et ceux qui n'ont pas les moyens pensent que ce sont des arriérés et miroir aux alouettes, ils pensent que c'est ça. Être un vrai être humain accompli, que c'est avoir une bagnole, que c'est polluer, que c'est se bourrer la gueule 4 fois par semaine, que c'est dépenser son argent, c'est ça. Parce que, et pourquoi le croirait-il pas, puisque ça inonde les séries de tout genre. Et donc, pour lui, le danger, c'est le crétinisme, bien sûr, mais pire, c'est qu'on finit par mépriser sa propre culture. Et les 4/5 de notre monde sont en dessous de notre niveau de vie largement, hein, et se mettent à l'envier. Et donc se mettent à dénigrer leur propre culture. Vous voyez, c'est une manière de regarder qui est très, très intéressante. Bref, donc voilà pour le chapitre 1. Bon, un diagnostic, un diagnostic. Chapitre 2. Alors celui-là, pour moi, c'est spirituellement, c'est le plus important. Avec ce que je disais dans l'introduction, mais celui-là, il est fondé sur la parole de Dieu. Et là, on a quelques surprises dans ce qu'il va nous dire. Je divise en 4 parties, avec une image qui vous fait deviner sur quel texte le pape va s'appuyer. Et il va nous faire rentrer dans une méditation de cette histoire du bon samaritain. Donc, 4 parties, tous, et des bulles, donc c'est la dialectique entre le global et le local, un fond FOND, FONT, compassionnel, quelques scuds et une clé. Tous ces débules, je l'écris comme ça parce que ça m'amuse, mais il est bien question, non pas de tousser, mais il est bel et bien question de la communauté, le communautarisme, l'égoïsme qui revient à fond. Le pape annonce qu'il prend son départ avec la parabole du bon samaritain que tout le monde connaît. Je rappelle en un mot, un homme en voyage se fait dépouiller et tabasser par des canailles. Il est laissé pour mort. Un lévite, c'est-à-dire un serviteur du temple, puis un prêtre passe par là, mais se détourne. Un étranger, un samaritain, arrive. Et lui, il s'occupe de ce pauvre homme. Il le conduit à l'auberge et prend soin de lui. La question, c'est, faut-il s'occuper de ceux de la bande, et on aurait déjà beaucoup à faire, ou de tout homme? C'est-à-dire, la bulle ou tous? Voilà, tous ou des bulles? Et la question se pose, en effet. La question se pose vraiment de la part des pharisiens, vous savez, qui viennent voir Jésus et qui lui disent quel est le plus grand des commandements. Alors bon, ils en discutent entre eux et à ce moment-là, vous avez un des pharisiens qui sont là pas du tout malveillants, ils cherchent juste à comprendre, puis qui pose la question, il dit mais qui est mon prochain? Parce qu'en effet, pour un juif pharisien, le prochain, aimer son prochain, c'est déjà intra-communautaire et c'est déjà beaucoup. Regardez dans vos familles, vous voyez, c'est dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, c'est déjà beaucoup. Aimer son prochain, aimer ceux qui nous sont proches. Et donc la question se pose, hein, pour un pharisien très honnête, la question se pose. Alors Jésus répond, d'après le pape François, à la question « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus ne veut pas répondre, il répond « Fais-toi proche, approche-toi. » Voilà, et bon, ça on peut comprendre. Et pourquoi s'élargir à tous? Parce qu'il n'y a qu'un créateur. Donc là, c'est François qui commente. Il n'y a qu'un créateur. Et tous ont été créés par Dieu. Ne fais donc pas l'offense à Dieu de faire le tri. Ici, le pape reprend une tradition de l'Église qui trouve son origine dans les premiers siècles. Alors, je vous explique un peu. Alors ça, ouais, ça répond notamment à ceux qui disent que le pape n'arrête pas de se citer lui-même. Bah oui, mais enfin quand même, il connaît un petit peu la tradition de l'Église que les râleurs, généralement, ne connaissent pas. En effet, Irénée de Lyon, second siècle, c'est un bon Gaulois, il est bien de chez nous. Irénée de Lyon, second siècle, qui, en parlant de la création par Dieu, évoque ce texte où Dieu pétrit la terre pour former le premier homme. C'est le second récit de la création dans Genèse. Irénée de Lyon dit « Il pétrit de ses mains », si l'on peut dire de ses mains. Et donc, en tout homme, on trouvera les empreintes de Dieu. Ah, ça, c'est... Citation au passage, tout à fait remarquable. Alors, ce n'est pas le pape qui cite ça, c'est moi qui commente. Donc, pour dire que cette pensée s'enracine dans une très haute tradition de l'Église. Il y a une deuxième tradition, c'est celle de Justin. Justin, de son côté, au second siècle, parle du logos spermaticos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du grec, ça veut dire les semences du verbe. Regardez, c'est l'image de gauche dans cette miniature du XIIIe siècle. L'esprit, c'est Genèse chapitre 1 pour le coup. On nous dit que l'esprit plane sur les eaux. En fait, le verbe hébreu, c'est l'esprit féconde les eaux. Avant même que Dieu, le Créateur, ne procède aux premières séparations. Distinction d'où viendra la vie. Féconder, ça veut donc dire que le Logos a ensemencé toute chose et donc que toute chose emporte quelques traces. Et quand je dis toute chose, c'est vraiment toute chose. Les arbres, les océans, la nature, et donc évidemment tout homme. C'est pourquoi, en tous, il y a un naturel désir de Dieu. C'est pourquoi, à tous, nous devons nous adresser. Nous devons aller à la rencontre de tous. C'est pourquoi, vers tous, nous devons nous faire proche. Non pas vers tous quantitativement, parce que nous ne sommes pas des pieuvres aux multiples tentacules, ce serait pathologique. Mais vers tous, ça veut dire sans distinguer et surtout sans mépriser, sans ignorer, sans se garder. Donc voilà le premier point que j'ai appelé « tous ces débules », vous comprenez ce que ça veut dire. Deuxième point, un fond compassionnel. Paragraphe suivant, c'est-à-dire 63 à 71. Une fois que j'ai expliqué le premier point, nous allons facilement comprendre la seconde partie que j'ai appelée un fond, F-O-N-D, comme un fondement, ou comme une source, F-O-N-T, quelque chose qui bouillonne en nous, comme si nous étions doués de compassion. C'est, je le crois, la partie la plus profonde et la plus intéressante de ce chapitre 2. François part d'un constat. Les deux premiers personnages de la parabole se sont détournés, symptômes en vérité, d'un malaise que tous nous portons par rapport à la souffrance, à la pauvreté, par rapport aux victimes. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants, c'est qu'on est toujours mal à l'aise. C'est assez bien vu, ça. C'est assez bien vu. Et le pape François ne culpabilise pas, ce n'est pas son genre. En effet, nous sommes assez maladroits, analphabètes, dit-il. Eh bien, pour deux raisons. La première raison de cette gêne, c'est que la pauvreté dérange. Bon, voilà. Elle en appelle à la justice, elle impose une image de l'injustice, etc. Mais la seconde raison est bien plus importante et bien plus optimiste. C'est que la vue de la misère soulève en nous, réveille en nous une naturelle disposition, un fond, F-O-N-T, une fontaine, une source, la pitié, la compassion. C'est ça qui vient sourdre en nous quand nous voyons un pauvre, quand nous voyons quelqu'un qui souffre. Et comme si naturellement, nous étions disposés à cette compassion, à cette pitié. Et c'est la raison pour laquelle on éprouve toujours un peu de gêne, comme un appel, et comme un regret de ne pas pouvoir. Eh bien, cette compassion que tous nous portons en nous, qui est la source de cette gêne, c'est ce que le pape appelle un bien commun. Alors ça, c'est très, très nouveau. Le bien commun, propre à chaque homme en ce monde, le bien commun, c'est que tous, nous sommes scandalisés par la souffrance. Il y a chez ce Samaritain une promotion de ce bien commun qu'est en chaque homme sa capacité de s'émouvoir, de se déplacer vers son frère, de se faire frère de celui qui en a besoin, qui a besoin de fraternité. Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau morceau de cette explication, cette méditation de la parabole par le pape François. Cette nécessité impérieuse qui monte en moi devant la souffrance est donc la loi fondamentale de mon être, dit-il, paragraphe 66. C'est ça la vraie loi de ma vraie personnalité, mon vrai fond authentique, c'est ça. C'est cette capacité compassionnelle, cette motion, ce mouvement de compassion, c'est notre identité à retrouver et à construire. Notre identité, notre être véritable, tel que créé, c'est de se faire le prochain. Voilà, donc, vous voyez, c'est... voilà l'idée la plus importante. C'est la raison pour laquelle, vous avez compris, je parle de fond, fondement, et de fond, source, hein, comme une heureuse disposition, comme une vocation. Troisième partie dans ce chapitre 2, très important, quelques scuds. Bon, je vais être rapide. Les scuds sont des missiles sol-sol d'une portée de 300 km déployés par l'Union soviétique dans les années 1957 à 1980. Voilà ce que c'est qu'un scud. Eh bien, dans la méthode de Ignace de Loyola, vous savez que le pape François est jésuite, et donc ici, il nous fait faire un petit exercice spirituel qui s'appelle l'oraison mentale, école ignatienne. On invite alors celui qui entre dans un texte, qui médite un texte d'évangile, on invite à entrer dans la scène par l'imagination en y prenant place. Et il prend part à la scène. Et le pape nous demande ici, où allons-nous nous placer ? Dans la peau de qui ? De la victime ? De l'aubergiste ? Ah, du samaritain, bien sûr. Ou des bandits. Ah, on avait oublié. Alors, lui, il ne va pas l'oublier. Et je mentionne donc deux cibles touchées par les fameux scuds en question. Alors ça, c'est terrible, parce que le premier scud, les premiers bandits, c'est les religieux. En effet, les deux premiers voyageurs qui passent leur chemin sont des religieux. Alors, il prend religieux au sens très large du terme. Et le pape rappelle que la piété ne suffit pas, ni les observances. Je cite, « L'ouverture du cœur aux frères sera la garantie d'une authentique ouverture à Dieu. » Bon, ça, j'en ai déjà parlé, j'ai largement expliqué, donc ce n'est pas la peine. Et l'ouverture du cœur aux frères est garantie d'une authentique ouverture à Dieu. Sinon, il n'y a pas vraiment d'ouverture à Dieu. Il y a juste des prescriptions extérieures. On applique la loi. Mais la seconde cible, c'est bien plus terrible et bien plus original. Ceux qui sont les bandits, c'est ceux qui disent « tout va mal », ceux qui n'arrêtent pas de râler, ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre, ceux qui voient tout en noir, ceux qui dénigrent tout, la politique est pourrie, vous voyez, ce qu'on est en période électorale, donc là, en ce moment, on entend sans cesse ce refrain, « bon, à quoi ça sert, ça ne servira jamais, ils sont tous pourris », enfin, vous voyez, ce genre de sottises, eh bien, le pape François dit « ce sont des bandits, ils vous tabassent sur la route et ils vous laissent à poil et comme mort. Ne les écoutez surtout pas, ceux qui n'arrêtent pas de geindre sur le monde, de se plaindre, de dire tout va mal, tout est pourri. Ce sont des bandits, ce sont du brigandage, dit-il. » Et ça, c'est très original, hein, comme interprétation de cette parabole. C'est très original et très fort, bien sûr. Rappelez-vous que le pape parle pour le monde entier, hein. Donc, vous voyez, ce que je viens de dire, c'est tellement évident en Europe, où on est des gâtés, on a une vie fantastique. Mais il le dit même pour les Africains ou pour les gens de son pays, qui sont dans d'autres conditions que les nôtres. Hein. Même eux, qui pourtant auraient peut-être légitimement le droit de se plaindre et de dire « Ah, ceux qui nous gouvernent sont des pourris. » Eh bien, ouais, bandit que tu es. Quatrième station, disons, dans cette méditation, c'est les derniers paragraphes, 77 à 86. Il y a, vous savez, nombre d'interprétations de cette parabole. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne, hein. Je vous en ai mis une dans sur le site YouTube dont je vous parlais tout à l'heure, que je ne développerai pas ici, qui est celle d'un vitrail de Chartres, qui est une interprétation très intéressante. L'interprétation que nous donne le pape François tient en une phrase, en un adage. Donc, voici ce qu'il dit, je cite, « Donc, je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. » Donc voilà, c'est ça l'interprétation qu'il propose. C'est-à-dire devenir prochain, s'approcher, aller à la rencontre. Et tout ce chapitre y conduit. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Il ne faut pas attendre que les choses viennent des institutions ou de ceux qui nous gouvernent. Il faut y aller, quoi. Il faut aller au contact, de l'étranger, il faut aller au contact de votre voisin, il faut aller au contact des autres religions, même si votre évêque ne le fait pas. Il ne faut pas attendre des consignes, quoi. Voilà, c'est dans la quotidienneté. C'est pourquoi, il conclut avec une méditation absolument géniale, et vous allez voir qu'au passage, c'est très intéressant. Il dit, c'est pourquoi le Christ lui-même se met à la place de cet homme dépouillé, frappé, laissé pour mort. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais affamé, vous m'avez nourri. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Le Christ est comme cet homme tabassé sur le chemin. Et c'est là, pour le pape, une nouvelle manière de comprendre le Christ a versé son sang pour nous. C'est très intéressant. Oui. Il a versé son sang pour nous, c'est-à-dire il éveille ce mouvement de compassion. Et son sang versé devient notre salut, si notre compassion s'éveille. C'est très étonnant comme interprétation. C'est très étonnant. Pas si nouveau que ça, puisqu'on en parle déjà dans Saint Jean Chrysostome, dans les Cappadociens, mais quand même d'un geste, vous voyez, enfin d'une comme ça au passage, il écarte sans la mépriser et sans dire qu'elle est fausse, hein. Mais il n'accentue pas du tout notre théorie habituelle, expiatoire sur la croix. Eh bien, il n'en parle pas. Lui, il dit, il a versé son sang pour nous, c'est-à-dire qu'il vient dans les pauvres, dans ceux qui souffrent, éveiller en nous la compassion, ce qui est notre salut. Et voilà. Donc, c'est du lourd. Alors, le chapitre 3 et 4, avançons un peu. Il faut probablement lire 3 et 4 ensemble. Ils se fondent sur une anthropologie chrétienne que je vais tenter de vous exposer. Voici le plan du chapitre 3 tel que je le vois. Bon, c'est un petit peu compliqué. Vous avez deux blocs importants, en haut et en bas, fondement anthropologique et les communs, qui encadrent trois unités moins importantes. Et celle du centre, c'est assez singulier, hein. Traite de liberté, égalité, fraternité. C'est assez bien pour nous, Français, hein. Il en parle dans son cycle. Commençons donc par lire ce que le pape donne comme fondement anthropologique, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui constitue le propre de l'humanité en tout homme. Eh bien, c'est ici que s'énonce, ça ne vous étonne pas, le fratelli. C'est-à-dire, pour lui, l'être homme de chacun, c'est d'être frère. Le moyen de faire grandir en nous l'humanité qui nous est confiée, c'est la fraternité. Et donc, le pape remet en œuvre la dialectique du tout et du local, le tout et les bulles, que nous avons déjà vu. Il rappelle qu'il y a une sorte d'inauthenticité de la fraternité quand elle s'en tient au cercle autoréféré, le clan, la bande, la famille. Il en appelle à ce qu'il nomme une amitié sociale inclusive. Il a un vocabulaire un peu étrange. Et le chapitre s'achève d'ailleurs par des recommandations très pratiques. Il en a plusieurs dans ce chapitre 4, et c'est ça qui 3 et 4, c'est ça qui agace un petit peu, parce qu'on dit, mais c'est pas possible, c'est utopique. Ah oui, il faut le dire, oui, c'est utopique. Hein. Voilà, c'est-à-dire, lui, c'est pas parce que c'est difficilement praticable qu'il ne faut pas l'annoncer. Voilà, bah, il fait son job de pape. Hein. Et alors là, donc, du coup, il dit, il prêche aux gens qui habitent les quartiers les plus pauvres, vous savez, les favelas d'Amérique latine, et il dit, vous aussi, vous devez avoir une amitié sociale inclusive. C'est-à-dire, vous aussi, tentez de vous replier sur vous, c'est la mort. Voilà, c'est très intéressant. Alors, que dirait-il de notre milieu parisien? Et donc, cette inclusive dont il parle ne veut pas dire tous azimuts ou vers le monde entier, ce qui est impossible. Il a la prudence d'éviter des trucs beaucoup trop théoriques. Non, non, il veut juste qu'on fasse l'effort de sortir de sa bulle. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est un fondement anthropologique, parce que c'est une nécessité pour la vie authentique. Dans sa bulle, on mêle une vie inauthentique, où on déstructure, on ruine notre humaine condition. Voilà, on se déshumanise dans la bulle. Et donc, ce grand principe, hein, c'est que nous ne sommes ce que nous sommes que par le biais d'autrui. Ce qui ne veut pas dire que nous serions constamment sous l'influence des autres, hein, ou que nous ne serions pas autonomes. Mais ça veut dire que ce que nous sommes, nous le devons. Nous le devons aux autres, pour partie. Une identité, à l'inverse, une identité murée, immobile, n'est plus une identité. C'est un idem. Alors ça, c'est Paul Ricoeur, hein, qui dit ça, c'est moi qui commente. Hein. Quelqu'un qui n'est plus qui est immobile, replié sur lui, c'est à proprement parler pas une identité, c'est un idem, c'est-à-dire il a perdu son identité, il a perdu son authenticité, il n'est plus que moi. Voilà, il n'est pas un moi authentique, il est un soi replié sur lui-même. Bon, ça c'est du Ricoeur que le pape d'ailleurs ne cite pas. C'est une manière donc de décliner concrètement, hein, cette espèce de nécessité pour ma propre humanité, de nécessité des autres, d'aller vers les autres, que les autres viennent vers moi. C'est une manière de décliner concrètement « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment veux-tu t'aimer toi-même sans aimer ton prochain? Tu ne peux t'aimer toi-même que par le biais des autres. Tu ne peux t'aimer toi-même, non pas au prorata de l'amour que tu portes aux autres, mais parce que les autres t'aiment et parce que tu les aimes. Sinon, tu n'auras que mépris de toi-même, tu auras une surestime de toi-même, enfin, etc. Alors, je relève ici quelques belles formules, hein, je vous en donne deux. Ça foisonne dans le chapitre 3, c'est très répétitif. Un être humain ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Bah, c'est la prière scout, par exemple. De Saint Ignace, apprends-nous à donner sans compter. Et c'est bien ce que vous faites dans vos familles. Je vois personne, mais j'en vois quand même quelques-uns qui lèvent un sourcil interrogateur. Ben oui, parce qu'on a du mal à le faire. Vous voyez, à donner d'une manière désintéressée. Et pourtant, un être humain ne peut atteindre sa plénitude, on pourrait dire sa vérité, hein, que par le don désintéressé de lui-même. Ou alors, la dernière, là, que je trouve vraiment bien, bien ficelée, bien formulée, l'amour authentique, à même de faire grandir, réside dans les cœurs qui se laissent compléter. À ça, il faudra que je le ressorte dans une homélie de mariage. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, etc. Encore une fois, dans le chapitre 3, vous trouverez plein de formules assez heureuses de ce genre. Et donc, c'est ça le grand fondement anthropologique. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité dans le langage philosophique. Et c'est très, très avéré, disons, en tout cas, confirmé, répété par les philosophes contemporains. Il faudrait ici parler du deuxième grand bloc que sont les communs, un autre massif de la tradition de l'Église. celui-ci peut être un peu plus ignoré. C'est ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire la destination universelle des biens communs. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, de l'air qu'on respire, de l'eau, de la terre, de l'espace. Ben, c'est ça, les communs. C'est-à-dire les biens créés par Dieu et qui forment l'harmonie du monde créé et qui sont confiés à l'homme. Et cette tradition est très haute, hein, et les auteurs de référence sont ni plus ni moins que les plus grands, Grégoire le Grand, Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, qui même, lui, a été poussé très loin parce qu'il s'est opposé à la propriété privée. Il disait, vous n'avez pas le droit d'avoir des terres à vous. Les terres sont à tout le monde. Ah, ça, Basile de Césarée, Saint Thomas d'Aquin. Alors, à partir de Saint Thomas d'Aquin, le truc de la propriété privée commence à s'arrondir un peu, parce qu'on s'est rendu compte que les biens communs étaient mieux servis quand un d'entre nous en est le maître que quand personne n'en est le maître. Les communs sont mieux servis. Alors, à condition, bien sûr, dit saint Thomas d'Aquin, vous pouvez accéder à la propriété privée, à condition que vous ne nuisiez pas aux communs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de ce que vous avez. Donc voilà, c'est ça, hein, la grande tradition de l'Église. Je le précise aussi parce que, figurez-vous, qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, le pape s'oppose à la propriété privée ». Ben oui, c'est la plus grande tradition de l'Église. Voilà, donc quand on proteste contre ça, ben on fait juste déclaration de sa grande ignorance. Juste trois mots encore, hein, à propos des communs, puisque je ne vais pas m'attarder. Le premier mot, c'est son rappel de l'injustice que serait le seul critère du profit personnel. Voilà, ça, il dit, il faut maintenant arrêter ça. Le profit est légitime, mais quand il devient l'unique critère de notre action, il est injuste. Voilà, donc, et il faut évidemment éviter que cette quête du profit personnel devienne boulimique, parce que ça ne peut alors que conduire à une nocivité. Alors que la propriété privée, je viens d'y faire allusion, n'est pas nocive comme telle, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de destruction des communs. Bon, voilà, ça c'est facile à comprendre. Seconde chose, cette destination universelle des communs, aujourd'hui, ne connaît plus de frontières, et maintenant, c'est une évidence. En fait, ça l'a toujours été, du point de vue cosmique, écologique, économique. Sauf que c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Alors ça, je ne m'attarde pas, parce que nous allons évidemment le voir dans Laudato aussi. Mais aujourd'hui, une forêt équatoriale qui brûle, c'est un commun qu'on détruit et qui fait donc du mal au bien commun de l'humanité, et non pas juste de la région. Pareil avec la propriété, et on dit, vous savez, il annonce quelques problèmes de guerre, hein, à propos de l'eau, notamment à propos de l'Euphrate. L'Euphrate appartient à qui? Eh bien, il appartient à personne. Voilà. Et alors, évidemment, les gens vont dire, ah ben, il coule chez nous, donc il est à nous. Faux, répond le pape. Voilà. Vous en avez la responsabilité, mais il n'est pas à vous. Vous en avez la gestion, mais ce n'est pas à vous. La terre, nous en avons la gestion, elle n'est pas à vous. Il y a un psaume, vous savez, qui dit « Malheur celui qui sur une terre a mis son nom ». Voilà, c'est une très haute tradition, c'est le second point. Troisième point, alors ça, je vous ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup, et qui est un véritable problème dans ces propositions du pape. Pour moi, plus, comment dire, l'histoire de la migration, ça peut se comprendre, bon, je vais vous expliquer dans un moment. Mais là, il insiste beaucoup sur la création d'instances internationales, en quelque sorte méta-étatiques. Puisque tout est mondialisé, globalisé, les déchets, les pollutions, les stocks, les circulations, les énergies, alors il convient que la mise en ordre, ou la mise en paix, ou la mise en harmonie soit mondiale aussi. Et donc, il en appelle plusieurs fois aux instances internationales. Alors, voilà, bon, moi, j'ai beaucoup d'hésitations là-dessus parce que je vois le mal qu'on a avec l'Europe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau mondial? Mais bon, c'est une utopie. Après tout, il est pape. S'il ne monte pas à ce niveau-là, qui le fera? Voilà le chapitre 3. Allons au chapitre 4, le fameux chapitre 4. Je le vois en deux grandes parties. Il n'y a pas que la question des migrants. Il y a évidemment un grand bloc sur la migration, dont nombre de faiseurs d'opinion ont voulu faire le tout de cette encyclique. Mais il y a une seconde partie qui, pour moi, est presque plus importante, en tout cas, elle est philosophiquement plus intéressante à débattre. C'est la dialectique du local et du global, de la bulle ou du mondial. Enfin, voilà, mais observons d'abord la question des migrants. J'y trouve des propos de trois ordres. Il y a d'abord et massivement des exigences quant au comportement à l'égard des immigrés. Il y a ensuite un appel à une gouvernance mondiale sur ce point, rebelote par rapport à ce que je viens de dire. Et enfin, il y a une vraie bonne question anthropologique sur la conservation ou la destruction des cultures. Et à quel degré peut-on les modifier, les cultures? Donc voilà, vous voyez, c'est trois grandes questions qui frisent, vous voyez, l'anthropologie et la philosophie. Alors, avançons un petit peu là-dedans. Le pape, d'abord, est en effet assez incroyablement exigeant. Déjà quand d'emblée, il annonce, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'était déjà dans le chapitre 1, il annonce qu'il faut éviter les migrations. Oui, mais bien sûr, la belle affaire. Mais il le dit clairement. Alors, vous savez, les détracteurs disent « qu'est-ce que c'est que ce pape qui est pour les migrations ?» Parce que pourquoi c'est un malheur? Parce que les gens perdent leur chez eux, parce qu'ils perdent leurs racines. C'est donc toujours un malheur, c'est toujours un fléau. Mais ce sont ces fléaux, bien sûr, qu'il convient d'éviter, et notamment les fléaux qui ont suscité l'immigration. Alors, quand c'est le miroir aux alouettes fabriqué par l'image que donnent les US, l'Europe, ou bien même, parce que ce n'est pas un miroir aux alouettes, la paix qui règne chez nous, ou le niveau de vie que nous avons, ou les soins médicaux qui sont en effet extraordinaires chez nous, qui attire le monde. Bon, ça, c'est une migration, je vous l'ai déjà dit, François met en garde. Il met en garde en disant, attention, vous allez perdre vos racines, vous allez perdre votre identité et vous serez déçus. Mais surtout, il parle des fléaux que sont ceux qui sont provoqués sur place, dans les pays d'où viennent les exodes. La difficulté sont bien évidemment que ce sont ces pays qui n'arrivent pas à endiguer leur propre source de catastrophes et qui les entretiennent. Guerre, corruption, mafia sont les premières causes des migrations. Et donc ça, évidemment, d'où l'appel, encore une fois, oui, d'où l'appel à une forme de gouvernance mondiale. C'est le second point qui revient plusieurs fois dans cette encyclique, et d'ailleurs sur ce point qui est largement emprunté à Benoît XVI. Et c'est là où moi j'ai quelques questions, parce que allons-nous faire, nous, ou une instance internationale, une opération Barkhane, partout où il y a de la corruption? Qui va être le gendarme du monde? C'est un peu délicat quand même. Est-ce possible? Est-ce seulement possible? Et qui va décréter que telle ou telle pratique serait irrecevable? Alors évidemment, quand c'est de la mafia, ok. Donc vous voyez, il y a une vraie difficulté. Alors moi, je suis évidemment, comme le pape François, je souhaite bien sûr qu'il y ait une espèce d'instance internationale qui fasse en quelque sorte qu'il soit impossible que la corruption pourrisse les gouvernements. Oui, mais comment faire? Alors, je cite un de ses appels, paragraphe 132. Les réponses pourront être seulement le fruit d'un travail commun en élaborant une législation, une gouvernance globale pour les migrations. De toute façon, il convient d'établir des projets à moyen et à long terme qui aillent plus loin que la réponse d'urgence. Donc, il faut guérir les mots. Ceci devrait, d'un côté, aider effectivement l'intégration des migrants dans les pays d'accueil, et en même temps, favoriser le développement des pays de provenance par des politiques solidaires. Mais j'ajoute, enfin c'est lui qui ajoute, mais je souligne, mais, donc en favorisant le développement des pays de provenance par des politiques solidaires, mais qui ne soumettent pas les aides et les pratiques, les aides et les stratégies à des pratiques idéologiques étrangères ou contraires aux cultures des peuples auxquels elles s'adressent. François Mitterrand, 1981, qui dit « Nous proportionnerons, il parlait de la France, nous proportionnerons nos aides aux États africains au prorata des progrès de la démocratie dans leur pays. » Et donc, vous voyez, c'est exactement ce que pointe le pape quand il dit qu'il ne faut pas soumettre les aides à des stratégies ou des pratiques idéologiques étrangères ou contraires aux cultures des peuples auxquels elles s'adressent. Ça pose un vrai problème, ça. La position de Mitterrand aussi en posait de vrais problèmes. Alors, ceci dit, le problème est multiplié par François parce que lui aussi fait la promotion des cultures qui s'étayent, s'animent et se grandissent mutuellement. C'est-à-dire, oui, nous avons raison de vouloir influencer les autres cultures, car c'est le propre des cultures mondiales. Ça a toujours été le cas. Les cultures se sont toujours influencées mutuellement. La culture française est un croisement de nombre et de nombre d'autres cultures qui a fini par faire la France. Et donc, influencer les autres cultures, c'est légitime. Mais jusqu'où faut-il aller? Donc, vous voyez, voilà, un des paradoxes de ce pape François. Alors, évidemment, il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut honorer, préserver, garantir les identités locales, tout en boostant, disons, les feux en disant qu'il faut accueillir d'abord les immigrés et deuxièmement qu'il faut qu'il y ait des instances internationales qui en quelque sorte s'ingèrent, font de l'ingérence dans les autres pays quand ceci provoque des catastrophes qui sont à l'origine des migrations. Donc voilà, vous voyez, c'est assez complexe, en fait, comme position. Donc vous voyez, on ne peut absolument pas dire de ce texte que le pape François est pour l'immigration. Bon, évidemment. Pour ne pas affaiblir quand même toutefois le propos du pape, et pour énerver encore un peu, je vous renvoie particulièrement aux paragraphes 129 et 130, où il donne quatre mots d'ordre, donc qui vont devenir une sorte de directive pour l'Église et pour ceux qui veulent bien le suivre. Accueillir, donc évidemment, la première chose, c'est qu'il faut éviter. Il faut éviter les exodes. Un exode est toujours une épreuve. C'est jamais un bien. Mais par contre, l'influence mutuelle est en est un de bien. Mais par contre, une fois qu'il y a migration, quand on n'a pas pu l'empêcher, eh bien, il faut accueillir, protéger, promouvoir la formation et intégrer. Il va même jusqu'à promouvoir la citoyenneté. Alors là, évidemment, vous voyez, c'est des implications concrètes, donc je n'ai pas du tout, je vous dis ça cash parce que je ne veux pas lisser raboter le propos du pape. Et il a bien ces six dimensions-là. Alors, c'est évidemment sur ce point très discutable. Mais je crois quand même qu'il faut dire « ok, mais on fait comment ?» Mais « ok d'abord ». C'était parce que ça relève en effet d'une pensée plus haute que le seul cloisonnement des cultures. Alors, ou la mise en danger des cultures. Alors, je vous conseille ce petit fascicule. Didier Leschi, je sais pas comment on prononce, Leschi, enfin voilà, qui est un haut fonctionnaire, hein, qui a lu le pape et qui trouve très bon ces quatre recommandations. Alors, pas la dernière. La dernière, c'est, hop, je vous le rappelle, vous voyez, c'est la citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté ? Alors, je vais le préciser dans un instant. Mais alors, donc, Didier Leschi, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, membre d'une commission, de nombreuses commissions européennes, écrit ce petit bouquin, alors que je vous conseille beaucoup, hein, c'est un petit fascicule, vous savez, c'est la collection Tract, dans l'excellente maison d'édition Gallimard. Vous avez tous les, je ne sais pas, 2-3 mois, un spécialiste qui fait une sorte d'article développé. Ce n'est pas du tout la taille d'un livre, c'est un article développé, ça fait 60 pages. Et donc, ce fonctionnaire reprend les quatre propositions du pape et il dit « voilà comment ça s'applique en France ». Donc, il dit « en effet, c'est ça qu'il faut faire ». Mais voilà comment on l'applique. Donc, il faut sortir des utopies et voilà comment on accueille. Et voilà ce qu'on fait en France. Ensuite, il faut protéger les identités et voilà ce qu'on fait en France. Ensuite, il faut promouvoir l'humanité des gens qu'on reçoit et voilà ce qu'on fait. Et enfin, il faut intégrer. Et voilà comment on le fait, dans quel cadre, jusqu'où c'est possible. Donc voilà, ça c'est un petit bouquin tout à fait intéressant que j'ai découvert quand j'ai préparé ces conférences sur Fratelli. Je vous donne un petit texte, paragraphe 40. Les migrations constitueront un élément fondamental de l'avenir du monde. Bah oui. Alors ça, vous savez, on a beau gueuler, on a beau protester. Les migrations constitueront un élément fondamental de l'avenir du monde. Ça, je crois que c'est absolument inévitable, le phénomène va s'accélérant. Mais, de nos jours, elles doivent compter avec la perte de sens de la responsabilité fraternelle sur laquelle est basée toute société civile. Vous voyez, il rappelle son principe de fraternité. Et en effet, s'il n'y a pas la fraternité, la migration devient danger. Je continue. L'Europe, par exemple, risque fort d'emprunter ce chemin. Ah, cependant, vous voyez, il y a à la fois un petit coup de phare sur l'Europe, presque une mise en accusation, à laquelle répond d'ailleurs Dominique Leschi, hein, dans le bouquin que je viens de vous signaler. Mais voilà le côté positif du pape, et optimiste même, hein, et le poids des cultures, l'importance de la culture, vous allez voir. Cependant, aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, elle a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral, le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et donc voilà, il le dit bien, et celui de garantir l'assistance et l'accueil des migrants. Vous voyez, c'est un texte qui est très cousu, hein, au mot près. Alors maintenant, il faudrait mettre en dialogue Didier Leschi et le pape François pour voir comment concrètement ces choses peuvent s'effectuer, ou est-ce que ce sont purement des utopies? Et jusqu'où peut-on aller? Donc voilà ce qu'il dit sur l'immigration. Vous voyez que c'est beaucoup moins benêt que ce qu'essayent de nous faire croire les adversaires de François. Passons au deuxième grand morceau, pour moi plus important encore. C'est le débat qu'il y a entre le local et le global. on pourrait établir sans peine un lien avec Laudato Si et l'importance écologique d'honorer le local, en tout cas de limiter les flux. Or, le déracinement, non seulement est le plus souvent un malheur hein, quand il s'agit de la migration, mais il l'est bien souvent aussi chez nous quand il prend les habits idéologico-économiques de la mobilité et de l'accélération. Et j'ai fait exprès de vous montrer cette photo où l'idéal du jeune homme qui sort de son école de commerce, c'est de courir à travers le monde, d'avoir un agenda hyper surbooké, de passer sa vie en disant « j'ai pas le temps ». Ah, c'est un idéal, quel homme ! Comme il est affairé, c'est affairé à ne rien faire, à faire du fric, à faire bon, etc. C'est un idéal. Alors, peut-être faut-il commencer à parler au passé. Parce que nombre, bah, ça fait aujourd'hui des articles de journaux. Hein. Moi, je ne lis plus que La Croix maintenant, mais je le vois même dans le journal La Croix. Régulièrement, on nous dit, on nous signale que de plus en plus, les jeunes gens, même qui ont fait de bonnes études, ne veulent plus de cette vie. Alors, je vous mets en regard, par rapport à cette photo, un auteur que je vous recommande également, Armut Rosa. Aliénation et accélération. C'est dans 2010, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Et lui, il dit que cette accélération contemporaine, ces flux, alors ces flux, c'est-à-dire nos vues, nos vies fluides, nos vies, vous voyez, qui n'arrêtent pas de nous échapper, où on court toujours. Le commerce qui grouille, qui va beaucoup trop vite, les flux financiers, etc. Pour lui, c'est, à proprement parler, la nouvelle forme d'aliénation. Alors évidemment, c'est un très bon bouquin. Alors, tout Armut Rosa est recommandable, hein, je vous le signale au passage. Il s'est fait connaître, quelques années avant, dans les années 2005, par un livre qui s'appelle « Résonance », dont je vous parlerai la prochaine fois à propos de Laudato Si. Résonance, c'est comme une caisse de résonance, c'est-à-dire il faut, par rapport au monde et aux gens, il ne faut pas être dans un rapport d'utilisation ni de domination, mais de résonance, c'est-à-dire de laisser faire l'écho, si vous voulez. Bon, enfin, on verra ça la prochaine fois. Et donc, à propos de la citoyenneté, j'ajoute un mot, il encourage à donner aux migrants intégrés un plein accès à ce qu'implique la citoyenneté. Par exemple, jusqu'au droit de vote. Mais, alors lui, il pousse les feux jusque-là. Mais évidemment, avec un grand nombre de devoirs conséquents. Par exemple, apprendre la langue. Et chez nous, en France, c'est moi qui ajoute, hein. Chez nous en France, de tenir compte des lois de la République. Voilà à propos des immigrants et ce que je vous disais juste avant, limiter les flux me semble être, d'une manière générale, une bonne idée. Je rappelle à ce propos que vous trouverez d'excellentes pages dans cet excellent ouvrage, Habiter, une philosophie de l'habitat, notamment les derniers chapitres, où je fais moi-même, il y a déjà quelques années, une critique de cette idéologie de la mobilité. Mais restons-en au propos du pape pour finir sur trois points. Bien évidemment, et comment faire autrement, il faut s'ouvrir aux différentes cultures. C'est même l'indice d'une culture vivante. Bon, tout ça a déjà été dit, mais je cite quand même le paragraphe 150. Aucun peuple, aucune culture, aucune personne ne peut obtenir tout de lui-même. Les autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d'une vie épanouie. Ça, on a déjà vu. Hein. Mais là, il faut l'étendre aux cultures même. C'est-à-dire les cultures s'étayent mutuellement, se confirment et voire même se contrebutent mutuellement. Et en se contrebutant, vont s'influencer. Alors, ce n'est pas du tout une idéologie bisounours, hein, où il s'agirait de mélanger les choses sans point dur de résistance. Mais même quand vous résistez à l'autre, pour une part, vous lui dépendez, vous en dépendez. Donc cette résistance qui va étayer votre culture dépend donc de la culture qui est venue à votre rencontre. Donc voilà, les cultures se croisent et c'est normal. Le monde, je cite à nouveau, paragraphe 148, « Le monde croît, grandit et se remplit d'une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives qui se créent entre des cultures ouvertes. » Pour moi, c'est une évidence géopolitique à vue historique. Second point, pourtant dans ces paragraphes, il y a la promotion du local. Donc vous voyez, encore hein, en même temps, ou comme disait le cardinal Ratzinger, en se faisant. C'est-à-dire qu'il faut tenir l'un et l'autre. Ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire, oui, le propre d'une culture, c'est d'en croiser d'autres, et par là de grandir. Mais second point, tout aussi important, promotion du local. Pas d'ouverture inconsidérée, ne pas renoncer à son propre trésor, par exemple, par fascination pour l'Occident. L'enracinement et une culture construite sont en vérité les conditions de l'échange authentique. Voilà, et donc, il faut sortir de l'imitation complexée. Il faut rejeter aussi l'homogénéité des cultures qui serait toujours une sous-culture. Je vous en ai parlé. Pour autant, troisième point, il y a un mauvais particularisme. C'est ma troisième photo. Il y a un mauvais particularisme, ce qu'il appelle aussi, lui, l'indigénisme, un terme qu'on utilise assez peu chez nous, hein, mais on parlera plutôt de communautarisme, bref, de mentalité casanière, de monde de bulles, qui semble s'aggraver, ou du moins se durcir ces temps-ci. Alors, la nuance entre s'aggraver et se durcir, je crois avoir compris dans cette encyclique que la mentalité communautariste ne s'aggrave pas, c'est-à-dire n'augmente pas en nombre, mais se durcit, c'est-à-dire les petites cellules qui sont aujourd'hui les communautaristes se durcissent et du coup, leur nocivité est beaucoup plus évidente et agaçante. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'elle dans les moyens de communication. Il n'est pas dit que ce communautarisme augmente, c'est-à-dire que nous fourmillerons dans peu de temps de micro-communautés. Par contre, lui, ce qu'il dit, c'est que ça se durcit, y compris dans les milieux chrétiens. Et donc, j'achève ici avec une citation que je trouve assez heureuse. Reconnaissons que moins une personne à une ouverture d'esprit et de cœur, moins elle pourra interpréter la réalité environnante dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, si vous êtes étroit d'esprit et de cœur, vous ne verrez rien du monde. Et vous finirez par le voir à l'aune de votre repliement. Donc voilà, tout ça, c'est des évidences psychologiques, philosophiques, mais qui sont importantes. Donc voilà, vous voyez, le ton général de cette encyclique. Et donc, pour conclure, j'ajoute deux points. Il y a un thème très cher au pape, hein, c'est, et ça c'est bien de le rappeler, ah oui, ça c'est une photo que je voulais vous montrer, à propos des risques non durs, ouais, du communautarisme. Je vous ai dit, hein, le communautarisme se durcit pour le pape François. Ben, il y a des communautarismes, des formes claniques, disons, qui ne sont pas dures. Vous voyez, qui sont pas, Qu'est-ce que c'est la dureté d'une forme communautariste? C'est quand vous êtes dans un processus de détestation des autres. Voilà, bon, alors bon chic, bon gendre, ben, non, quand même, on n'est pas. Mais c'est quand même notre tentation à nous autres. Hein. Les banlieues parisiennes, milieu français, européen, disons, assez gâté. Il faut rester entre nous, quoi. Bon, voilà, ça c'était un petit clin d'œil assez amusant pour vous dire que non, on n'est pas obligé de se durcir. Bon, voilà. Oui, je vous disais, C'est, pour conclure, c'est un thème cher au pape, la vérité est polyèdre. C'est un terme qu'il utilise. Déjà, 3-4 fois, je l'ai lu, hein. Polyèdre, ça veut dire la vérité n'est pas, évidemment, pas binaire, elle n'est pas monobloc, elle est à multiples facettes, elle est symphonique. Et on le voit bien, hein. Il plaide pour la défense des cultures et pour l'ouverture aux migrants, en signalant aux migrants qu'ils se mettent en danger du point de vue culturel. Il veut protéger le local, mais appelle aux institutions transnationales. Qu'est-ce qui va rester du local? Donc, vous voyez, c'est des paradoxes qu'il appelle, lui, la vérité polyèdre. Et puis, second point de cette conclusion, c'est en effet dans sa façon d'écrire, sa façon de penser, il y a une mobilité qui passe les frontières entre le vocabulaire habituellement politico-technique et le vocabulaire théologique. Et il fait glisser des expressions de l'un vers l'autre. D'abord, le politique, le théologique, c'est très, très clairement chargé de politique, on l'a vu dans ce que je vous ai expliqué, mais réciproquement, il semble qu'il y ait chez le pape François comme une exigence, en tout cas un encouragement, à faire passer des valeurs d'habitude promues par notre vocabulaire dans la charge politique, dont je vous ai dit qu'il voulait réhonorer hein, la dignité. Par exemple, il parlera de charité politique, il parlera de compassion sociale communautaire, il parlera d'amitié sociale inclusive. Voilà, donc, vous voyez, c'est un autre point très intéressant. Autrement dit, il ne désespère pas du politique, même si celui-ci est désenchanté. Il y a encore à faire avec le politique et nous n'avons pas d'autre issue que de faire avec le politique. Voilà, je finis avec ce joli polyèdre. Peut-être que, si vous voulez, on peut un peu discuter une minute ou deux, comme vous voulez. Ah, il faut que vous repreniez vos micros. Et que je remette vos têtes, je vais remettre la mienne. Si vous êtes encore là, si je ne vous ai pas perdu. Voilà. Bon, ben, à vous si vous voulez. Hein. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu, c'est quand même assez solide. Hein. Attendez, je remets ma caméra, voilà. Est-ce que vous avez réussi à entendre?
Oui.
Bon, donc la solution, c'est bien d'éteindre les caméras. Voilà, alors donc, vous voyez, c'est un texte finalement qui a suscité moins de colère que Amoris Laetitia, mais la colère d'Amoris Laetitia était un groupuscule de factieux, hein, vous avez bien compris, hein, tout cardinaux qui soit. Alors que ce texte-là a suscité une certaine animosité, reprise par les factieux en question, mais une espèce d'incompréhension à cause de la question de la migration. C'est pour ça que j'en ai un peu parlé. Mais ce n'est évidemment pas l'essentiel, hein.
Merci, Père Clazen. Moi, j'aurais souhaité savoir, dans le monde, ce discours, enfin, cette pensée en tout cas, dans quel pays a-t-elle mieux accueilli? Est-ce qu'il y a des résonances plus ou moins qu'on peut percevoir, enfin,
alors,
les pays qui réagissent le mieux, en fait?
Ah oui. Alors, elle a été très mal reçue par un lobby américain. Qui du coup a influencé un réseau italien, mais évidemment très bien reçu en Amérique du Sud. C'est là où probablement elle a été le mieux reçue. Pas bien lu, pas vraiment lu en Europe, mais quand elle a été lue, ça a été assez bien reçu. Angela Merkel, par exemple, a dit
là, on n'entend plus.
On n'entend plus.
On t'a perdu, Bernard.
Alors, je vais fermer ma caméra. Hop, caméra. Zut, caméra, elle est où voilà. C'est bon, vous m'entendez ou pas, là?
Oui.
J'essaie de fermer ma caméra, mais je n'arrive plus à trouver la barre de commande.
Mais là, on entend bien.
Ah bon, très bien. Voilà, mais je vais quand même fermer ma caméra, parce que je crois que j'ai un problème avec mon flux ici. Voilà, décidément, hein, les flux, c'est la mobilité. Ah ouais. Oui, je disais, en Amérique du Sud, ça a été assez bien reçu. Aux US, je vous ai dit, il y a un lobby qui a vraiment pris, qui a organisé une révolte, hein, contre cette pensée. Et Angela Merkel est la seule politique qui était encore en place à l'époque, qui ait dit son accord ouvertement à ce texte. Voilà, donc globalement, c'est assez bien reçu. Ouais. Surtout la méditation, l'extraordinaire méditation du bon samaritain. Ça, vraiment, waouh! Beaucoup, beaucoup. Moi, j'en ai parlé à mes confrères, et ils étaient tous comme moi, c'est-à-dire en se disant « Ah oui, c'est vraiment très innovant, quoi, et très intéressant. » C'est-à-dire, il ne trahit pas le texte, hein, quand il dit ça. C'est vraiment très beau, quoi.
Merci.
Je voudrais dire un mot de ce que j'ai entendu aux nouvelles aujourd'hui, c'est que les Anglais entendent sous-traiter leur immigration clandestine au Rwanda. Oui. Moyennant finance.
Ah, voilà.
Je trouve qu'on est là dans un monde totalement opposé à ce qu'on a entendu ce soir.
Ah, ouais.
Et j'en suis très choqué.
Ouais. Ah ouais, ça c'est un vrai problème qui nous attend. Hein. Ah oui, mais il y aura, je pense, des politiques même cyniques qui vont se mettre en place. Alors, ça pose la vraie question, je ne sais pas si c'est la vôtre aussi, hein, mais moi je suis un peu dans le dubitatif, l'expectative, enfin je ne sais pas comment dire, par rapport, je crois en effet qu'il n'y a pas d'autre solution que la gouvernance mondiale, en tout cas des instances méta-étatiques, mais je ne vois pas comment ça peut marcher. Mais en effet, je veux bien écouter le pape François là-dessus. Et j'aimerais en être convaincu. Parce que mon idée, c'est que, par exemple, la France, hein, est beaucoup intervenue dans des pays, et je ne sais pas, on l'accuse d'avoir manipulé les choses à son profit. Et donc je crois que je crains beaucoup que ces instances internationales soient coincées par ce type soit de comportement soit d'accusation et risquent de faire des maladresses en fait plus que du bien. Enfin bref, bon, donc voilà mon
questionnement.
Oui. Mais par exemple, à l'exemple que vous venez de donner sur l'Angleterre, pourrait être canalisé par une instance internationale qui décrète l'illégalité. Mais encore faut-il l'avoir, cette instance. Et ensuite, après, il faut avoir des moyens de rétorsion. Ben, on a bien quand même créé la Cour internationale de la haie, qui quand même, c'est déjà quelque chose. Bon, enfin, voilà.
Mais c'est toujours pareil. Comment accueillir sans perdre sa propre, je ne vais pas dire son âme, mais il y a un moment, il y a une question de nombre.
Ouais. Oui, alors, et puis, de conditions d'accueil. Alors ça, il faut vraiment lire le petit bouquin de Didier Lessy, qui là-dessus est très clair. Hein. Et en fait, alors moi, je trouve ce bouquin excellent parce que à proprement parler, il ne répond pas au pape en disant « Vous voyez, ce que vous dites est infaisable. » Au contraire, il dit « C'est exactement ce qu'il faut faire et voilà comment nous faisons. » Alors évidemment, accueillir l'étranger, c'est sous condition.
Eh oui.
Alors les Suisses ont des conditions très, très dures. Mmh. Nous, peut-être qu'on n'a pas assez de conditions. Mais en Allemagne, par exemple, vous avez une des conditions, c'est qu'il faut savoir parler la langue dans 2 ans. Mais aujourd'hui, on le voit bien avec les problèmes de... Tiens, ben, ce soir, j'ai encore entendu ça. Je ne sais plus où, d'ailleurs. C'était à la radio, je crois. Quelqu'un qui, en France, s'est stabilisé, a une famille, a un job, l'administration française est aveugle et applique d'une manière inconséquente, on va dire, des consignes parce que est étrangère à la justice, parce que c'est précisément ce gars-là qu'il faut garder.
Eh oui.
Le mec qui a trouvé un boulot, qui s'est stabilisé, qui a fait une école, qui parle le français, c'est lui qu'il faut garder. Oui, et on se met dans des à cause d'une administration très prudente, alors probablement qu'elle a raison de le faire, mais bon. Et donc il faudrait juger au cas pour cas, quoi, mais bon, là je dis ça, faire un appel à des spécialistes.
Ouais. Et renvoyer une fois qu'ils sont là, enfin, même s'ils ne parlent pas français au bout de 2 ans, on ne peut pas le renvoyer.
Alors, je ne sais pas ce qu'ils font en Allemagne. Je ne sais pas. Je ne suis pas assez renseigné. Personne... Mais vous voyez que c'est un vrai bon sujet. Hein.
Personne n'a la solution, j'ai bien peur.
Oui, mais alors ce qu'il dit, en disant « de toute manière, l'avenir sera fait de migration », je crois que c'est vrai. C'est vrai. Et donc, c'est le sujet des 15 prochaines années.
Ben oui, rien qu'à cause du climat.
Alors, le climat, c'est l'autre grand sujet dont on va parler mardi prochain.
Ben oui.
Et donc, voilà, ce sont…
C'est lié.
Ouais, c'est lié. Tout le monde dit d'ailleurs que ces 2 encycliques sont liées.
Ouais.
Bon, ben voilà, écoutez, c'est… Voilà. C'est un peu assommant d'avoir 2 heures comme ça, hein, mais c'est très intéressant.
C'est intéressant, mais moi, je n'ai pas toutes les réponses encore.
Ah ben non. D'ailleurs il ne donne pas toutes les réponses, mais non. Il veut que la question se pose. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, aussi.
Voilà, il ne va pas donner des solutions, mais il veut que la question se pose. Et il veut qu'on la pose correctement, c'est-à-dire en dehors de rejet, de mépris, de haine, et de peur. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je disais en introduction. Hein. Je pense que du point de vue pratique, on peut décliner des réponses différentes, pourvu qu'on garde l'esprit. On garde l'esprit de son enseignement. Je pense que c'est ce qu'a réussi à faire le bonhomme dont je vous ai parlé dans le petit livre. Là.
Ouais.
Le grand dérangement, d'ailleurs, ça s'appelle. C'est marrant. Hein.
Mais ça, c'est très nouveau, hein, quand même, qu'un pape... tiennent compte autant de l'actualité, non ? C'est...
Alors, oui, la doctrine sociale de l'Église, d'une manière générale, c'est assez nouveau, ça date, de l'entre-deux-guerres, où on s'est intéressé, vous savez, les premières grandes questions, c'était à propos du nombre de gens qui étaient déshumanisés
au travail. Pauvreté.
Et donc, ça donnait « Rerum Novarum ». Il y a donc plus d'un siècle. Hein. Donc, c'est récent quand même dans l'enseignement de l'Église. Mmh. Bon, allez, on va boire une bière.
J'ai bière.
Bon, allez. Bon, bah, merci. Et on se
retrouve.
Merci,
Bernard. À la semaine prochaine.
Ciao.
Merci.
Bon. Salut,
bonsoir à tous.